9h-11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Un match de foot par semaine, c'est le régime. En ce moment, deuxième finale après la Coupe vendredi dernier, la finale de la Ligue ce soir sur France 2 et sur Europe 1. À nouveau le PSG, opposé cette fois à Lyon, le Paris Saint-Germain qui va sur ses 50 ans, ce sera le 12 août. Bien avant ce club de millionnaires appartenant au Qatar, il y a une toute autre histoire. Bonjour Julien Froment.
Bonjour Pascal.
Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien évidemment et vous commenterez le match ce soir.
Oui, avec Cyril Lamorinerie.
Ah ouais, grosse journée. vous signez un podcast. Podcast en 5 épisodes avec Europe 1 Studio, associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris.
L'associé numéro 1, c'est le titre que nous venons de vous décerner, l'associé numéro 1, Europe numéro 1.
Sur la méthode, Julien, d'abord, comment avez-vous procédé pour raconter les débuts du PSG en podcast? C'est d'abord une plongée dans les archives, j'imagine?
Oui, il y a de ça, et puis surtout, il y a connaître l'histoire, parce que tout simplement, au tout début, quand je me suis intéressé à cette histoire du PSG, je ne la connaissais pas forcément dans le détail.
Vous avez quel âge?
J'ai 34 ans.
Oh bah oui, voilà. Un gamin, ouais.
Exactement. Moi, je suis plus génération 90, et en fait, c'est en discutant avec des membres de la communication du PSG qui me parlaient justement des festivités pour le 50e anniversaire, qui m'ont dit, bah, Europe 1 a une histoire avec nous, quoi. Et là, je fais, ah d'accord, ok, très bien. Du coup, je suis allé me plonger un petit peu dans les livres et j'ai vu en effet que Europe 1 avait participé activement à la création d'un grand club à Paris qui au début était le Paris Football Club et qui après est devenu le Paris Saint-Germain.
Voilà, alors effectivement, se plonger dans les archives, apprendre des choses, rencontrer des témoins. L'histoire du PSG, Julien Froment, c'est d'abord l'histoire d'une anomalie, c'est-à-dire qu'on est à la fin des années 60 à Paris. On est à la fin des années 60 et Paris n'a pas de grand club.
Oui, c'est ça, c'est ce que je dis dans le podcast, c'est la province du football. Paris, c'est complètement anormal. Quand on va en Europe, hein, que ce soit à Madrid, à Lisbonne, en Angleterre, partout, il y a des grandes équipes dans les capitales.
Bah, Londres,
et Londres, il y en a cinq qui sont en première division. Et à Paris, bah, plus rien. Il y avait deux clubs, le Racing Club de Paris et le Stade Français, mais pour des raisons diverses et variées, pas des fois tout à fait très catholiques, les clubs ont disparu. Plus de clubs professionnels en première division, et donc là, bah, la fédération commence à faire tâche, quoi. En plus, il y a le nouveau stade, le Parc des Princes, qui va être rénové. Et bah pour le moment, c'est un stade vide. Il y a pas de club pour y résider. Donc, il fallait trouver une solution. Et c'est comme ça que bah, cette histoire du grand club à Paris est arrivée.
Alors, effectivement, ça commence par une réunion de bonne volonté, dirons-nous. La Fédé, la Fédération, le journal L'Équipe et Europe numéro 1, comme on dit à l'époque quand vous étiez pas né. il s'agit d'abord de trouver un nom. À cette équipe. Alors, ça, c'est incroyable. On demande aux Parisiens leur avis.
Oui, en fait, à l'époque, la mode, quand même, c'était le référendum. C'est ce qui faisait un peu foi. Et la Fédération Française de Football, déjà, la première question, c'était « Voulez-vous d'un grand club à Paris ?» Parce que c'est quand même la question fondamentale.
Oui, enfin, ça, on peut difficilement répondre non.
On ne sait jamais. Il faut qu'il y ait quand même une adhésion populaire pour que ce club existe et qu'après, derrière, il y ait un soutien. Et en effet, après, la question liminaire, c'était bah, quel nom vous voulez donner à ce club. Alors, il y a eu plusieurs possibilités. Le Racing Club de Paris, justement, pour les nostalgiques. L'Inter de Paris. Alors là, c'était en référence au club italien de l'Inter Milan qui, à l'époque, gagnait tous les titres européens.
Il n'y a pas eu le Real de Paris
Non, là, il n'y a pas eu cette alternative-là. Et le troisième, donc, c'était le Paris Football Club, là, qui avait une consonance beaucoup plus britannique et qui était aussi très à la mode à l'époque.
Alors, puisque Europe numéro 1 fait partie de cette histoire, de cette aventure, comment la radio peut-elle aider? Eh bien, avec Pierre Belmar et son émission Vous êtes formidable. Qu'est-ce qui se passe dans cette émission?
Alors, en fait, tout d'abord, les dirigeants du Paris Football Club sont des précurseurs parce que ils se demandent comment on peut médiatiser ce club, ce qui ne se faisait pas trop finalement. C'est quand même assez novateur de leur part. Et donc il y a Pierre-Étienne Guyot qui est le président du Paris Football Club qui se dit j'ai un carnet d'adresses assez conséquent, quand je vais jouer au golf, je rencontre des grands entrepreneurs, des hommes de médias, et il connaissait Maurice Siegel. Maurice Siegel qui était le grand Manitou d'Europe numéro 1. Et donc il va voir Maurice Siegel en lui demandant qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à faire évoluer ce grand club à Paris. Et du coup Maurice Siegel en parle à Fernand Choisel qui était chef du service des sports à l'époque, et lui dit on va faire Vous êtes formidable. Et Vous êtes formidable, eh bien, c'est une émission, une sorte de téléthon, on peut dire ça comme ça, où l'idée c'est...
Mais avec Pierre Belmar quand même, Belmar, qui est convaincant,
En plus, qui revenait dans l'émission après 10 ans d'absence, et qui a un verbe incroyable, il y a le sens de la punchline, on va dire, même si ça ne se disait pas à l'époque. Ouais. Et il trouve les mots pour lancer cette opération Paris Football Club, le 1er février 1970, où il demande aux Parisiens, venez adhérer au club, payez 25 francs de l'époque et vous deviendrez supporter associé, donc adhérent au Paris Football Club.
Et des socios, comme on disait,
voilà,
encore, j'imagine.
En référence au Real Madrid, parce que les dirigeants du Paris Football Club sont allés voir justement le Real Madrid et le président un peu légendaire de l'époque était Santiago Bernabéu qui a expliqué en gros tout le processus.
Et donc ça marche fort, enfin.
Oui, pas mal.
Combien, 10 000?
10 000, plus de 10 000 adhérents la première journée, oui. Et au total, il y en a 17 000.
Alors un nom c'est fait, des supporters associés c'est fait. Encore faut-il trouver un club avec lequel fusionner. Pourquoi?
Tout simplement parce que dans les conditions d'accession à la première division pour ce club, justement, il faut évoluer dans l'élite du championnat de France. Et le problème, c'est que le Paris Football Club, c'est une coquille vide. C'est un club virtuel. Alors oui, il y a des adhérents, il y a des dirigeants, mais il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de joueurs. Donc c'est un peu compliqué pour jouer au football.
C'est sûr.
Et donc du coup, on cherche à fusionner avec un club qui est déjà en première division et qui a des problèmes financiers. Alors il y a eu deux clubs, il y a eu Sedan. Mais Sedan avait déjà fusionné précédemment avec un club parisien et les supporters n'étaient pas spécialement chauds pour fusionner à nouveau. Ouais. Et il y a eu Rouen aussi, mais là c'est le groupement qui est l'ancêtre de la Ligue de football professionnel qui a mis son veto en disant non, c'est qu'avec Sedan, sinon vous ne fusionnez pas et vous ne montez pas en première division.
Donc deux échecs avec Sedan et avec Rouen. Et puis il y a un petit club qui s'appelle le club de Saint-Germain mais qui évolue en division 2.
Oui.
Ouais, ça se fait quand même, parce qu'il faut bien...
C'est le stade Saint-Germainois, d'ailleurs le vrai intitulé. Et en fait, ce club en effet est en deuxième division. Mais sa chance, c'est que son président s'appelle Henri Patrel et c'est le numéro 2 de la Fédération Française de Football. Donc ça aide un petit peu. Il a accès à tous les dossiers chauds, entre guillemets, de la Fédération. Et donc forcément celui du Paris Football Club. Et les hommes s'entendent tout simplement, que ce soit du côté du Paris Football Club et du Stade Saint-Germainois. Et c'est comme ça qu'a lieu cette fameuse fusion qui fait que le Paris Saint-Germain Football Club est né. Mais c'est vrai qu'au début, il ne devait pas y avoir de fusion parce que la ville de Paris, ça aussi c'est très important, la ville de Paris donnait une subvention pour aider ce club.
Alors n'anticipez pas s'il vous plaît, Julien. Il faut en laisser un petit peu pour après la pub.
C'est ça.
Voilà, ne spoilez pas, comme on dit. Le Paris Saint-Germain est né en 1970, mais il y a encore beaucoup de péripéties. Nous sommes avec Julien Froment ce matin sur Europe 1 pour sa série de podcasts sur le PSG. À tout de suite. De l'histoire du PSG telle qu'elle vous est racontée sous forme de podcast par Julien Froment avec le studio Europe 1, et bien ce sont effectivement des relations difficiles avec la ville. Julien, on va pas tout développer ici, d'abord parce qu'on n'a pas le temps et puis parce qu'il faut écouter votre travail. Le club se retrouve en 3e division et puis en 73 surgit un homme important dans l'histoire du club. C'est un homme d'affaires, il s'appelle Daniel Echter. Que vient-il faire dans cette histoire?
Il aime le foot tout simplement, en fait c'est un fondu de football, il joue avec ses copains. Alors à l'époque, c'est quand même le pape du prêt-à-porter. Il est jeune, il a 33 ans, mais c'est déjà quelqu'un de très connu. Et il joue souvent en fait des matchs, des matchs caritatifs avec les polymusclés. En gros, c'est un peu le variété actuel, quoi. C'est des célébrités qui viennent jouer au football pour s'amuser. Donc des fois, il y a Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul
Belmondo.
Vous voulez qu'on en parle
Non, mais ça va aller. Je vais y arriver. Jean-Paul Belmondo, donc qui joue dans les buts. Et voilà, il y a aussi des anciens joueurs comme Raymond, comme Coppa, comme Fontaine. Et donc, il est vraiment fondu de foot. Et il y a un de ses amis qui s'appelle Jackie Bloch qui lui dit est-ce que t'es intéressé pour reprendre un club de foot? Et il dit pourquoi pas, allons-y. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il se retrouve à aller du côté du Paris Saint-Germain, qui est somme toute assez abordable, puisque le club, en effet, est en 3e division à l'époque.
Ouais, puis lui, il a de l'argent, on imagine, Daniel Echter.
Il en a un petit peu, oui. Alors, ça fait grincer des dents, mais oui, il a de l'argent, il a ce qu'il faut pour pouvoir soutenir ce club.
Alors, vous l'avez dit, il est dans le prêt-à-porter et il a des idées, y compris pour le futur maillot. On écoute Daniel Echter.
Moi, il y a une rayure qui m'a toujours plu, c'est la rayure de Ford Mustang. Et au lieu de la faire en bicolore comme est la rayure de Mustang, je l'ai fait en bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire bleu et rouge étant les couleurs du Paris Saint-Germain, j'ai rajouté une touche de blanc seulement pour que ça ressorte mieux et qu'on le voit mieux. Et j'ai dessiné une quinzaine de tenues comme ça, jusqu'au moment où j'ai trouvé celle qui me plaisait le plus, que j'ai présentée au comité, et là ça a été unanime. Voilà.
Ouais, c'est important un maillot, hein, c'est
oui.
bien.
Bah, en fait, je pense que Daniel Echter a vraiment été le pionnier pour donner une image un peu strass et paillettes au Paris Saint-Germain, qui est plus en adéquation finalement avec la ville de Paris. C'est quand même, voilà, la Paris, c'est la Tour Eiffel, il y a quand même une image assez, assez glorieuse. Et lui, bah, a apporté ça, en fait, alors par le maillot, mais surtout aussi par ses amis. Voilà, quand on a Belmondo, qui à l'époque est quand même la star reconnue à l'échelle nationale et internationale, quand il y a ce genre de personnalité dans les tribunes, ça donne aussi une médiatisation différente au club.
Ouais, c'est là que les VIP, comme on les appelle,
oui, la fameuse corbeille du Parc des Princes, bah c'est Daniel Echter. Alors lui, il l'avoue assez modestement, il n'a pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est lui qui l'a inventé en quelque sorte.
Et ça n'a pas cessé. Hein.
Ah non.
Non, mais c'est vrai, le PSG est un club où avec beaucoup de VIP qui gravitent autour. Mmh. Pourquoi ?
C'est bien vu d'être quand même dans la corbeille présidentielle à côté d'ancien président de la République.
Oui, alors, ils aiment le foot quand même.
Oui, mais c'est quand même une certaine représentation. Quand on est à côté, par exemple, d'un ancien président de la République, ou même du président du Paris Saint-Germain qui a mille et une casquettes, on est bien vu. On sait qu'on va être photographié, qu'on va peut-être apparaître le lendemain dans les journaux, dans la presse people. Donc il y a aussi un côté représentation. Ça fait bien d'être dans la corbeille du Parc des Princes.
Julien Froment, 5 épisodes pour votre podcast. Où vous arrêtez-vous dans le récit ?
Juin 1974, en fait, le Paris Saint-Germain joue un match de barrage qui va lui permettre de remonter en première division. Et depuis, Paris n'est jamais redescendu.
Mmh. Vous envisagez la suite déjà des saisons 2, 3, 4, 5 ?
Faut rediscuter.
Raconter cette histoire en podcast, ça permet quoi dans la forme et ça oblige à quoi ?
Ça permet de prendre son temps. Parce qu'on, en radio, vous le savez mieux que moi, quand on est à l'antenne pour parler de l'actualité, on est très timé. Voilà, le papier, s'il fait plus d'une minute dix, c'est un petit peu compliqué. Que là, 25 minutes, c'est inespéré. Ça permet vraiment de poser les enjeux, le contexte, de permettre aux interlocuteurs de parler de manière plus décontractée, plus longue. Et y a un côté pédagogique aussi, je trouve, avec ce podcast. C'est que, voilà, souvent on dit les supporters du Paris Saint-Germain, ils connaissent que le Qatar, ils connaissent que l'air Canal+, ils connaissent pas l'histoire réelle du club. Et ça permet peut-être à, voilà, des gamins de 10 ans, 15 ans, 20 ans qui aiment Mbappé, qui aiment Neymar, et bien de savoir d'où vient le club et comment le club s'est construit.
Alors, on se fait un petit bonus ensemble, Julien Froment, sur le PSG d'aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup d'argent, hein, c'est ça. On dit ça tout de suite quand on parle du PSG d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un club aimé ? Est-ce que c'est un club suffisamment populaire ? Parce que Paris, on en parlait tout à l'heure, c'est pas que la Tour Eiffel. Paris,
bien
c'est
sûr.
Une ville populaire aussi. Quel est votre sentiment ?
Je pense que c'est un club qu'on aime détester, parce que c'est un club qui écrase la scène nationale. Il n'y a pas de concurrent au Paris Saint-Germain sur ces 10 dernières années, que ce soit Lyon, Marseille, Lille, Monaco. Paris est au-dessus, parce que Paris a des moyens financiers, mais surtout a su utiliser à bon escient ses moyens financiers. Après, pour que le Paris Saint-Germain devienne populaire, c'est comme Saint-Étienne ou comme l'Olympique de Marseille, il faut gagner une Coupe d'Europe. Si Paris gagne prochainement la Ligue des Champions, il peut y avoir une bascule et là, le PSG peut devenir un club populaire au sens noble du terme.
Alors je vais vous faire écouter un son qui date de vendredi dernier. C'était pendant la finale de la Coupe de France PSG Saint-Étienne.
La transmission ratée de Masson, ça atterrit dans les pieds de Di Maria. On a cherché la verticalité avec Mbappé. Séché là par Loïc Perrin, il y aura faute et carton. Attention, grosse tension. Et Kylian Mbappé qui reste au sol.
Voilà, on a pris le son de la télé pour pas faire ton sur ton. Il y a cette poisse quand même qui colle au PSG, non ? Est-ce que ça dénote d'une fragilité ?
Non, c'est la faute à pas de chance. Alors nous, pour rire, on dit souvent le poisse Saint-Germain. Mmh. Mais c'est vrai que Neymar, ces dernières années, là, Kylian Mbappé, je sais pas, il faut peut-être engager un marabout, mais je pense pas que ça soit une fragilité, parce que Kylian Mbappé, finalement, il va plus vite que le joueur de Saint-Etienne. Il peut rien si le joueur prend sa cheville et pas le ballon. Donc non, je sais pas. Il n'y a pas d'explication rationnelle à toutes ces blessures voilà, qui s'accumulent au fil des ans.
PSG-Lyon, ce soir, en finale de la dernière Coupe de la Ligue. Vous allez commenter ce match sur Europe 1 et voilà, vous nous donnez votre pronostic tout de suite.
Ça va être très serré. Moi, je dirais Paris quand même.
Combien ?
2-1.
Ok, merci
voilà,
Julien Froment.
Ça reste le nom
associé numéro 1 à votre podcast d'Europe 1 Studio à écouter. 2 épisodes sont déjà en ligne. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À suivre le journaliste musical Christophe.